Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Fred Axelgard. I'm with the Wheatley Institution, which is a research institute here on the campus at Brigham Young University, where we focus on policy issues affecting the family, religious freedom, and other
issues. Les libertés religieuses et je vous accueille sur cette session sur le Liban, l'Égypte et la Turquie. Je vais présenter nos orateurs et nous ensuite les écouterons. Notre premier orateur, Mohamed Abdelal, est un professeur de droit constitutionnel et administratif à l'Université d'Alexandrie en Égypte. Il a fait des études en 2010. Il est maintenant à l'Université d'Indiana, à Indianapolis. Il a reçu son master et il est un candidat en doctorat. Sa thèse vous fera sourire. Son sujet a affaire avec l'empêchement constitutionnel entre les États-Unis et l'Égypte. Après Mohamed, nous écouterons M. Arslan, le vice-président de la ville de Yozgat. Nous sommes heureux de pouvoir l'écouter. Sa présentation sera faite en turc. Et enfin, M. Michel André Touma. Il est assistant éditeur en chef L'Orient le Jour au Liban. Il est aussi le directeur et se focalise sur les droits religieux et se spécialise sur les affaires religieuses où il travaille à Beyrouth. Nous sommes heureux d'avoir ces trois messieurs de trois régions importantes du monde. Je vais d'abord demander à chacun d'entre eux de parler pendant environ 10 minutes. Ensuite, nous aurons une discussion et je vous présenterai le format de cette discussion lorsque le temps viendra. Tout d'abord, M. Mohamed Abdelal.
Merci, professeur Fred. Mais bonjour tout le monde. Merci d'être présent ici. En fait, ma présentation sera un peu différente de ce qu'on a déjà entendu ce matin. Je vais argumenter la question du droit de l'homme, du droit individuel, du point de vue de la constitution égyptienne que nous allons amender ce mois-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Égypte, c'est un pays transcontinental qui est dans le partie nord-est de l'Afrique et avec la péninsule sinaïenne. Et la population d'Égypte est maintenant à 90 millions et 90% de la population est musulmane avec seulement 10% chrétienne et arabique. L'arabe est la langue principale de l'Égypte. Le 25 janvier 2011, vous avez entendu la révolution d'Égypte en 2011 qui s'est répandue dans toutes les rues égyptiennes et dans la région de président Moubarak et qui a expulsé président Moubarak et qui a en fait délégué son pouvoir aux forces militaires. Et l'Égypte a commencé à émerger comme un pouvoir majeur. Et donc, il y a eu une élection démocratique où le président Morsi, qui venait du parti des frères musulmans, a été lui aussi éjecté récemment. Et aussi, en juin 2014, nous avons eu une révolution où il y a eu ceux qui étaient désillusionnés avec le mandat de président Morsi. Ils l'ont propulsé, ils l'ont destitué. Et président Morsi maintenant n'est plus le président d'Égypte, et maintenant le président en cours est temporaire et le chef est donc le garde et le juge en chef, en fait, de la Cour suprême. Et lorsqu'ils ont, en fait, élaboré la Constitution en 2012, l'islam est la religion de l'État et l'arabe est la langue officielle et les principes de la charia sont les sources principales de législation. Alors, l'islam est la religion de l'État et sa langue officielle n'a jamais été un problème, simplement parce que ça reflète tout simplement le statu quo en Égypte que l'islam est la religion dominatrice, majoritaire, et les principes de la charia islamique donnent les principes de législation aux fonctionnaires. Les libéraux égyptiens et les chrétiens voient la portion de cet article comme une islamisation de la Constitution. Mais en fait, les libéraux égyptiens et les chrétiens ont propulsé et ça n'a pas frustré les libéraux égyptiens et ils sont venus avec une interprétation de l'article 2 qui était une interprétation libérale. Alors, dans l'interprétation de l'article 2 qui limite un peu le principe de la charia islamique et pour seulement les points qui sont au-delà du doute et qui laissent libre cours à l'interprétation. Et lorsque nous argumentons que toutes les lois en Égypte et les régulations devraient promouvoir la justice humaine, individuelle, et s'il n'a pas embêté les libéraux et les chrétiens égyptiens, mais ils ont juste essayé d'imposer. Le problème c'est quand ils ont été d'imposer un nouvel agenda et de nouvelles interprétations à l'article 2, et bien sûr, qui exclut les libéraux et les chrétiens égyptiens. Alors, on va essayer de parler un peu de la liberté de parole dans la Constitution de 2012. La plupart des points controversiels de la Constitution, les chrétiens et les libéraux voient que la nouvelle constitution restreint cette liberté. Toutefois, les islamiques voient que cette constitution de 2012 promeut et soutient les libertés de croyance. Alors, la constitution de 2012 mentionne la liberté de croyance sur l'article 23 et qui montre que ceci est un droit inaliénable et de pratiquer sa religion et d'établir ses lieux d'adoration, peu importe sa religion, et comme c'est régulé par la loi. D'un côté, selon les règles traditionnelles, il y a une interprétation qui applique cela par rapport donc à la première partie de l'article qui explique qu'il y a des droits précieux qui doivent être préservés. L'État doit garantir la liberté de pratiquer les droits religieux à leur manière, comme c'est régulé par la loi et concernant donc la liberté de croyance. Alors, les restrictions qui peuvent être vues ici concernant la liberté de religion, c'est juste pour garantir la liberté de croyance, la liberté de pratiquer le droit de pratiquer sa religion. En conséquence, ceux qui croient à une religion indivisée ont pratiquent les droits religieux afin d'établir leur propre lieu d'adoration et de culte. Le droit, selon l'article 43, le droit de croire est garanti et protégé pour tous les citoyens. Et avec la donnant le droit ils ont tous ces droits et garanties sous l'article 43. Toutefois, et toutes ces religions sémitiques sont permis de pratiquer leurs droits religieux et d'avoir un lieu de culte. Une autre chose qui pourrait être vue comme manipulation en fait de ces libertés, c'est les difficultés qu'il peut y avoir entre les croyants eux-mêmes et leurs dirigeants eux-mêmes. Comme les non-musulmans d'Égypte et les chrétiens et les juifs ont différentes règles et lois qui sont liées à leur canon et à leur religion. En ce qui concerne le choix de leurs affaires personnelles, la sélection de leurs dirigeants spirituels. D'un autre côté, quelqu'un pourrait voir cette restriction de la liberté de croyance parce que il vient de reconnaître la chrétienté et le judaïsme comme d'autres religions acceptées en Égypte, en plus de l'islam. Toutefois, les cours reconnaissent que tous ceux qui croient à autre chose que l'islam, la chrétienté ou le judaïsme ne sont pas permis. Ils ne sont pas permis à décider leur propre sort intérieurement dans les affaires de leur Église. Ils sont soumis au droit islamique dans les tribunaux. Je ne vois pas cela comme une restriction sur les libertés de croyance, parce que c'est simplement reconnaître la chrétienté et le judaïsme comme religion en côté de l'islam, c'est juste une idéologie de l'État mère. Il y a certains États, par exemple ici, comme le Texas et l'Indiana, viennent juste de bannir d'accepter la loi charia dans la Cour des États-Unis. Je crois que c'est juste une question d'idéologie et je ne pense pas que ça restreint les libertés de croyance en soi. Et une autre question controversielle ici, c'est sur le droit de la déterrence. Déterrence et le droit d'arrêter les gens. Et en 2012, la Constitution de 2012 requiert que la dignité humaine doit être préservée et que l'individu ne devrait pas être soumis à un traitement indigne et que toute personne arrêtée devrait être informée de ses droits lorsqu'elle est en détention. Et c'est aussi, ils ont aussi le droit de se présenter à une autorité, donc ils pourront les représenter dans les 24 heures suivant leur arrêt. La Constitution elle-même ne nous dit pas combien de temps on doit informer quelqu'un et sur le temps spécifique avant de le donner à des interrogateurs. Je crois que c'est ce laps de temps, en fait, peut donner une liberté aux autorités d'abuser un peu de leurs droits pendant que la personne est en détention. Une autre controverse, c'est le principe d'égalité. Et pour expliquer un peu plus concernant le principe d'égalité, nous devons retourner à la Constitution de 1971. Cette Constitution pourvoit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs sans discrimination entre eux, sur la base de leur sexe, de leur religion et de leur race. Et la Constitution en cours de 2012 pourvoit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs sans discrimination. Ainsi donc, il est évident que la Constitution de 2012, qui a été rédigée par les islamistes, et donc dans l'article 40, pourvoit qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination entre ces citoyens sur la base de leur sexe, religion ou race. Et donc la Constitution en cours, qui est la Constitution de 2012, a permis en quelque sorte permet en fait ces discriminations sur la base de leur sexe, race. Et cet article, en fait, qui est l'article 33 de 2012 de la Constitution, est vraiment là pour servir l'idéologie cachée des islamiques extrêmes et d'empêcher les autres à courir, à se présenter pour pour une position publique, excluant donc les juifs et les chrétiens, permettant donc de discriminer entre les musulmans et les non-musulmans. Et finalement, la liberté de croyance de la Constitution de 2012 qui garantit le droit aux citoyens d'exprimer leurs pensées, leur opinion. La Constitution de 2012 met en phase sur la liberté de créativité à chaque individu citoyen qui devrait être garanti et par l'État. Et dans le cadre de cette liberté de médias aussi, dans la Constitution de 2012, donc il y a la liberté de médias et de la presse, et que ce soit imprimé, publié, et aussi les médias informatiques. Les médias devraient être libres et indépendants pour servir la communauté et d'exprimer comme voix différentes de l'opinion publique. Et aussi de présenter les principes de la société. Donc, la Constitution présente les médias comme une institution indépendante. La Constitution de 2012, cependant, fait outre un point important où les crimes de publication devraient être interdits. Donc, les journalistes devraient travailler libres de risque d'être persécutés par des problèmes politiques. L'exigence qu'il y ait une certaine. La liberté de presse devrait être exercée en accord avec les exigences de l'institution. Cependant, ce n'est pas spécifiquement mentionné dans la Constitution quelles sont les exigences de la sécurité intérieure. Et ceci pourrait mener à certaines restrictions d'expression sans justification viable. Et les rédacteurs de la nouvelle Constitution devraient clarifier ce qu'est la signification des exigences concernant la sécurité nationale qui devraient être mises en pratique en accord avec la Constitution. Merci beaucoup.
Dear guests,
I would like to start. J'aimerais recommencer ma présentation en vous apportant le bienvenu de la Turquie, et je suis retraité de militaire. J'aimerais partager mes opinions personnelles en tant que citoyen de les exemples qui ont été partagés hier, aujourd'hui, sur la Turquie et sur l'islam. Ma famille et moi n'ont jamais à vivre notre religion. Je pense que des gens qui vivent d'autres religions n'ont pas des difficultés à vivre leur religion en Turquie, car la tolérance est très importante dans mon pays. Par exemple, à Istanbul, les synagogues, les mosques et les cathédrales sont les unes à côté des autres. Je ne pense pas que vous pouvez trouver ceci ailleurs, parce que je sais qu'il y a des musulmans dans d'autres pays qui ont des difficultés à vivre leurs obligations religieuses. En 1923, le sécularisme a été apporté à notre pays en accord avec la constitution turque numéro 24, cinquième clause, qui parle de la liberté des religions et de la conscience. Tout le monde a le droit à la pensée et à la parole. Personne ne peut être forcé d'aller à des cérémonies religieuses. Elles ne peuvent pas être forcées à penser ou ne peuvent pas être jugées selon leurs opinions. Les éthiques, la formation religieuse est offerte et au niveau de l'éducation par le gouvernement. Les formations religieuses sont n'avons pas de traduction, pardon.
Someone like something. Okay. Actually, the freedom of conscience and religion.
La liberté de religieux a toujours été controversée, mais le sécularisme en Turquie veut dire que le gouvernement ne peut pas interférer au niveau de l'éducation, des enseignements dans les services publics, par exemple. Cependant, nous avons eu des problèmes avec le port du foulard et sur des cartes d'identité, par exemple, comme il a été cité hier. Il y a 10 jours, une nouvelle loi a été passée et maintenant le turban peut être porté. Les cartes d'identité n'a pas votre religion, et si votre religion ne veut pas être écrite sur votre carte d'identité, vous pouvez demander à ce qu'elle soit laissée vide. Mais le changement est dans les mentalités. La naissance de du christianisme et Le sécularisme est né et ce développement a pris beaucoup d'années pour que la Turquie s'adapte à ces nouvelles idées. Mais la liberté de conscience et de religion a toujours été controversée et sera toujours controversée. Avant la Turquie, l'Empire ottoman respectait toutes les religions et ces autres religions étaient respectées et pouvaient exister et pouvaient pratiquer les libertés de croire et de vivre leur religion. Le sécularisme veut dire que le gouvernement ne peut pas s'impliquer dans les affaires religieuses en termes d'éducation, d'enseignement et de service public. D'un autre côté, les religions ne peuvent pas s'interposer avec les règles et les lois du pays. Ceci met en place ce qui a été mis en place par la Cour suprême. Depuis que la Constitution a été mise en place, il y a un ministère des Affaires religieuses.
Le sécularisme établi par Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, dit la chose suivante. Premièrement, que la religion a été utilisée et est utilisée pour les affaires politiques. Il y a ceux et des groupes qui ont des intérêts politiques et qui utilisent la religion à leur avantage. Deuxièmement, notre société repose sur la religion et dépend de la religion et ainsi donc peut prendre avantage du système. Ainsi donc, le principe de sécurité Atatürk a montré qu'il n'y a pas de favorisme contre personne ou groupe, aucun groupe, et qu'il ne devrait pas y avoir, il devrait avoir aucun privilège d'accorder aux différents groupes. Et c'est cela que Atatürk a dit dans sa déclaration. Atatürk savait donc, en termes de la prospérité et du progrès turc, et au nom de la religion, qu'il pourrait y avoir certaines superstitions qui empêcheraient le progrès du pays dans ses différents domaines. Il savait aussi et a déclaré que les sentiments sincères dans le public de méconfiance aux politiciens reflète cela. Et ainsi donc, nous comprenons que la République de Turquie appartient à la Constitution. Comme mentionné dans le quatrième article de la Constitution, qu'il devrait y avoir liberté de religion et d'expression. Les droits de l'homme sont apportés par les règles du gouvernement avec la nature d'être humain. Et ils sont indépendants. Pour qu'il y ait un progrès individuellement, il y a une clause qui peut être manifestée que dans les États démocratiques. La règle est qu'il y ait une égalité de base, et c'est moral, et ça a des attributs moraux. Toutes les règles qui protègent la dignité des gens, elles sont incluses dans les droits de l'homme. La dignité est importante à comprendre que les règles de droit soient appropriées, pour que les règles de droit soient appropriées. C'est là un outil essentiel pour la justification de certaines règles. Toute personne, organisation ou gouvernement a la liberté de détruire n'importe quelle liberté. Le droit humain, le droit de l'homme remonte à nos origines. La première fois que nous avons vu de droits individuels comme ça, c'était avec les sous-marins. Il y a des plaques de sous-marins qui montrent leur relation entre les ouvriers, les experts et les employés. Et il y a dans le Turkestan qui pensent que ceci était la terre-mère. Il y a beaucoup de situations qui montrent qu'ils vivaient sous un seul gouvernement. Toutefois, le gouvernement que les Turcs ont organisé auparavant dans l'histoire était très séculaire par nature. De nos jours, en 2004, la Turquie et l'Espagne ont commencé une civilisation unie qui a le plus grand nombre de membres hormis les Nations Unies. Dans le passé, il y a eu donc des controverses en ce qui concerne les caricatures imprimées et concernant le prophète Mohammed ou par certains islamophobiques et qui exprimaient leur intolérance par ces caricatures. Du fait de cela, de ce fait, et pour d'autres raisons, je suis content d'être ici. Je sais que cette conférence est très importante. L'islamophobie était venimeux, était une menace dangereuse pour l'islam et pour les pays occidentaux, tout comme l'antisémitisme. L'islamophobie est aussi un type de racisme et un crime contre l'humanité. Au matin, les gens parlaient de la Bible et la Bible parle de. Ce matin, les gens parlaient de la Bible, de l'amour humain qu'il y a. Et le Coran contient ce même type d'amour fraternel. Une déclaration dans le Coran dit : Oh Mohamed, je ne te demande pas pour ce message, je ne demande aucun paiement. Mais et qui que ce soit qui. Une bonne action pourra être récompensé en conséquence. En effet, Allah est miséricordieux. Et en effet, donc, l'islam encourage que nous soyons de bons voisins. Si vous avez un voisin qui a faim, prenez soin de lui. L'un des rois mages, un homme sage qui s'appelle Mihwana, a dit « Venez, quelle que soit votre raison, venez ». Il n'y a pas de discrimination parmi les gens. Il y a la tolérance. En résumé, en tant que Turc et musulman, j'aime toutes les lois, toute personne, peu importe leur religion, leur race. Et j'attends de même de votre part. Merci de votre attention.
Bonsoir. Moi, je vais parler en français. Donc, je voudrais commencer d'abord par remercier la Brigham Young University de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce symposium. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, je voudrais remercier aussi tous les volontaires, surtout les jeunes et les étudiants de cette université, pour tout ce qu'ils ont fait pour préparer ce symposium. Et je sais très bien ce que ça demande comme effort et comme temps. Donc, je voudrais leur adresser un remerciement marqué à tous les volontaires, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, pas seulement des jeunes. Bon. Mon exposé va être divisé en deux parties. Je vais d'abord parler un peu du contexte actuel du Moyen-Orient à la lumière, à l'ombre de ce qu'on appelle chez nous le printemps arabe, les révolutions dans les pays sont arabes depuis des révolutions populaires dont les pays arabes sont le théâtre depuis un peu plus de 2 ans. La deuxième partie va porter sur le modèle libanais, le modèle d'organisation sociale et d'organisation politique au Liban, et en évoquant comment ce modèle pourrait être l'une des solutions aux problèmes qui se posent à des sociétés pluralistes et hétérogènes, formées de plusieurs groupements essentiellement communautaires. Alors d'abord, commençons un peu par le contexte des pays du Moyen-Orient. Pour comprendre, parce que ce contexte est important, pour comprendre en quoi le modèle libanais pourrait être une des solutions. Alors, depuis le déclenchement du printemps arabe en 2011, nous assistons au Moyen-Orient à l'émergence, ou plutôt le renforcement, c'est pas l'émergence parce que ces courants existaient, nous assistons au renforcement d'organisations et de courants islamistes qui signifie que nous assistons de plus en plus à l'intrusion du religieux dans la politique dans les pays du Moyen-Orient. Je précise bien donc que ces organisations islamistes existaient déjà en underground, d'une façon plus ou moins clandestine. Mais avec le printemps arabe, ces courants islamistes se sont renforcés de plus en plus. Alors, certains pourraient dire que, à cause de l'émergence de ces organisations islamistes, il faut dresser un bilan négatif du printemps arabe. Alors, ça, je pense que ce serait un peu aller trop vite en besogne. D'abord, parce qu'il faut savoir que le monde arabe, depuis peut-être 5 décennies, depuis plus de 50 ans, le monde arabe vivait dans un état d'hibernation politique totale. C'est-à-dire que tous les pays du monde arabe, à l'exception du Liban, et on verra pourquoi, étaient gouvernés par des régimes dictatoriaux qui étaient tous issus de coups d'État militaires qui sont intervenus avec la fin du colonialisme européen dans les années 50. La fin du colonialisme européen a abouti donc à des coups d'État militaires un peu partout. Et il y a une nouvelle classe politique qui a pris le pouvoir et qui, sous le couvert de lutte contre Israël, le sionisme, l'impérialisme et tout ça, ont installé des régimes dictatoriaux qui se sont transformés avec le temps en des clans mafieux, des clans familiaux mafieux, qui ont mis la main sur le pouvoir et qui ne cédaient plus le pouvoir. Très rapidement, des exemples que vous connaissez très bien. En Irak, Saddam Hussein, il avait mis la main sur le pouvoir et ce sont ses fils qui se préparaient à prendre le pouvoir. Et pour eux, ils considéraient que le pouvoir, c'était une propriété clanique et familiale. À tel point que lorsqu'il y a eu le début de l'opération américaine contre l'Irak, les gens de Saddam Hussein n'ont rien trouvé de mieux que de rentrer dans la banque centrale irakienne et de prendre l'argent qu'il y avait dans la banque centrale irakienne. Parce que c'était considéré que c'était la propriété de sa famille, de son clan. En Tunisie, je pense que vous savez aussi comment le régime au pouvoir qui est venu après Bourguiba s'est transformé aussi en régime mafieux et en régime familial mafieux. En Syrie, n'en parlons pas, depuis l'avènement de Hafez al-Assad, l'État, la structure de l'État a été complètement court-circuitée en Syrie. Et Hafez al-Assad, le clan de Hafez al-Assad, a mis en plan des réseaux étatiques parallèles au service de l'État et qui faisaient la pluie et le beau temps et qui ne tenaient pas du tout compte des structures étatiques. Sur ce plan, si vous avez l'occasion, il faut lire à tout prix un ouvrage écrit par un sociologue français qui a été assassiné d'ailleurs par le Hezbollah et les Syriens au Liban, qui s'appelle Michel Seurat, qui s'appelle L'État de barbarie et qui explique comment le clan Assad en Syrie, qui se basait sur la communauté alawite, avait mis en place tout un circuit d'influence et d'intérêts mafieux qui court-circuitait complètement l'État syrien. Et ce clan mafieux se poursuit jusqu'à maintenant avec Bachar. Et de plus belle, maintenant, Bachar il a ajouté à ça des armes chimiques, etc. Donc, on ne veut pas rentrer trop dans les détails, mais dans tous les pays arabes, donc, il y avait ces clans mafieux qui étaient au pouvoir. Donc, lorsque le printemps arabe a été enclenché en 2011, il ne faut pas s'étonner, dans toute révolution, il y a des abus et des débordements. Vous êtes bien passés tous pour le savoir. Dans tous les pays qui ont connu des révolutions populaires ont connu aussi des débordements et des abus et des massacres et des règlements de comptes et des chasses aux sorcières, etc. Donc il est naturel que dans les pays arabes, après le printemps arabe, qu'il y ait une inflation. Il y a eu une inflation de partis et de courants politiques et d'organisations politiques qui ont été un peu partout dans tous les sens. En Tunisie, par exemple, on n'a pas de Tunisiens ici. Il y avait après la révolution en Tunisie peut-être l'émergence de 20 ou 30, peut-être même plus, partis politiques, organisations politiques. En Égypte aussi, il y a eu après la révolution l'émergence de beaucoup de courants. Et Mohamed, je pense, il est mieux placé que nous pour le savoir. de beaucoup de courants et d'organisations, de partis politiques qui ça se poursuit jusqu'à maintenant. Donc, cette introduction du religieux dans la politique après le printemps arabe ne doit pas nous effrayer, ne doit pas nous pousser à dresser un bilan négatif du printemps arabe, parce que c'est un phénomène normal, qui est cette inflation de courants et d'organisations politiques. Bon. Si on veut schématiser la situation, au Moyen-Orient actuellement, il y a un bras de fer entre trois courants de pensée ou trois projets de société, en schématisant. Et ce schéma s'applique plus ou moins un peu à tous les pays arabes. Alors, il y a, premièrement, les courants de pensée des organisations islamiques extrémistes qui n'acceptent pas le droit à la différence, qui n'acceptent pas l'autre dans sa différence et qui cherchent à imposer par la force ses vues, ses valeurs, son mode de vue et son système politique. Je fais référence là essentiellement à des organisations comme l'Al-Qaïda et tous ceux qui tournent autour de l'Al-Qaïda, qui sont présents un peu partout, qu'on appelle tantôt les salafistes, mais peut-être que le terme salafiste n'est pas très, très, très précis. Moi, je les appelle des organisations islamistes extrémistes, radicales, de la mouvance de l'Al-Qaïda ou chez nous au Liban du Hezbollah, qui veulent par la force des armes, par les attentats terroristes, par les assassinats, par les explosions et par les liquidations et les menaces, veulent imposer leur vue et leur projet de société. Ça, c'est le premier courant. Le deuxième courant est formé d'organisations islamistes pour schématiser, que j'appellerais modéré entre guillemets, c'est-à-dire qui accepte le jeu démocratique, et c'est le cas essentiellement peut-être de la Turquie et un peu le cas de la Tunisie, où ces mouvements, ces courants islamistes acceptent le jeu démocratique pour accéder au pouvoir. Alors maintenant, ils réussissent ou ne réussissent pas. Dans le cas de l'Égypte, ça n'a pas été un grand succès, mais ça fait partie du jeu. D'accord, qu'un courant arrive au pouvoir, qu'il réussisse ou non, ça fait partie du jeu. Mais au moins, ce courant islamiste non dictatorial, disons, accepte de jouer le jeu démocratique. Troisième courant de pensée, le courant de pensée libéral, qui existe aussi dans tous les pays arabes, en Tunisie, en Égypte, même en Libye, qui prône un État civil, un État central civil, qui serait le garant de tout le monde. Un peu suivant le modèle plus ou moins occidental. Bon. Ça, ce sont les trois courants, les trois projets de société qui sont en train d'évoluer dans le cadre du Moyen-Orient après le printemps arabe. Alors, c'est à ce niveau qu'intervient le modèle libanais, qui, je le précise, peut être un projet de solution à une société pluraliste et hétérogène. Et j'insiste sur le terme pluraliste et hétérogène. Mais avant de parler du modèle libanais, j'ai encore, et pour comprendre ce modèle libanais, parce que certains, surtout en Occident, sont parfois surpris par ce modèle libanais. Pour comprendre ce modèle libanais, j'ai deux petites remarques à faire. D'abord, il ne faut pas oublier que nous autres, au Moyen-Orient, comme son nom l'indique, nous sommes en Orient. Nous sommes en Orient, qui est la région d'où sont parties les trois religions monothéistes. Donc, c'est une région qui est à la source des trois religions monothéistes. Et ça explique le fait que la religion dans cette partie du monde a une grande importance dans la vie politique, sociale, dans la vie de tous les jours. Ça, il ne faut pas oublier ça. Donc, lorsqu'on veut juger un modèle, il ne faut pas le juger suivant des lunettes occidentales ou suivant un critère occidental. Il faut oublier un peu les critères occidentaux et comprendre et se transposer dans un autre espace-temps, dans un autre repère physique ou mathématique, qui est celui de l'Orient, et envisager les choses, voir les choses sous l'angle de l'Orient. Donc, il ne faut pas oublier que nous sommes en Orient. Parce que nous sommes en Orient, deuxième constatation, deuxième petite remarque, en Orient, les allégeances familiales et claniques sont très fortes. L'allégeance à la famille et au clan sont jusqu'à maintenant très fortes. Au XIVe siècle, il y a un sociologue tunisien, Ibn Khaldoun, qui a étudié et analysé ce qu'il a appelé le phénomène de la Asabiya. La Asabiya, si on peut le traduire en français, c'est l'esprit de corps. L'esprit de corps, c'est-à-dire le fait de sentir qu'on fait partie d'un groupe ou d'une communauté bien déterminée et qu'il y ait un fort sentiment d'allégeance envers ce groupe ou cette communauté. C'est ce qu'on appelle en arabe la Asabiya. En Orient, cette Asabiya, cette allégeance au clan féminin est très poussée. Donc, il faut prendre en considération ça lorsqu'on étudie un peu des structures politiques. Bon, à la lumière de toute cette conjoncture, comment se présente le modèle libanais? D'abord, il faut savoir qu'au Liban, le Liban est formé de 18 communautés religieuses. Il y a grosso modo 4 communautés musulmanes et 14 communautés chrétiennes qui sont catholiques, grecques orthodoxes ou protestantes, ou orthodoxes. Parce qu'il y a les orthodoxes, il y a les grecs orthodoxes, les arméniens orthodoxes, etc. Donc il y a 14 communautés chrétiennes et 4 communautés musulmanes. Nous partons du principe au Liban qu'on refuse de faire la politique de l'autruche. C'est-à-dire, on part de la constatation que nous avons une société pluraliste formée de 18 communautés officielles, dont la dernière en date qui a été reconnue par l'État libanais, c'est les Coptes, qui est une communauté qui est reconnue officiellement au Liban comme une des 18 communautés. Donc on parle de cette constatation, on refuse de faire la politique de l'autruche. Et deuxième constatation, deuxième postulat, on fait la distinction entre la participation de ces communautés au pouvoir et à la chose publique et la coexistence. Ce n'est pas la même chose, parce que ces communautés peuvent exister, vivre, y aller boire, manger, dormir, y aller circuler et tout ça, sans qu'elle ait un rôle politique, économique ou culturel. Ce n'est pas la même chose. Donc on parle du principe que ces communautés ont un rôle à jouer sur le plan politique, économique, social, financier, culturel, pédagogique, etc. Et qu'il ne s'agit pas seulement, comme c'est le cas en Syrie malheureusement, que par exemple les chrétiens se contentent de boire, manger et dormir et d'aller travailler, un point final, sans avoir aucun rôle. D'accord? Bon. Donc, à partir de là, comment est formé le modèle libanais? D'abord, le pouvoir politique est partagé à égalité entre chrétiens et musulmans. C'est-à-dire le président de la République est toujours chrétien. Le premier ministre et le président de la Chambre sont toujours musulmans. Le gouvernement et le Parlement sont répartis à égalité entre chrétiens et musulmans. Et chaque communauté est représentée au sein du gouvernement et du Parlement suivant un quota déterminé. Au sein de l'administration, toutes les communautés sont représentées. En plus de ça, chacune des communautés au Liban a ses propres écoles, ses propres universités, ses propres télévisions, ses propres radios, ses clubs sportifs, ses associations de bienfaisance, ses universités, etc., ses clubs culturels, ses clubs sociaux, etc. Donc, toutes les communautés sont représentées et ont un rôle à jouer sur tous les plans de la vie politique et économique. Donc, à notre avis, pour rejoindre un peu le thème du symposium, c'est ce modèle-là, c'est-à-dire la participation active de toutes les communautés à la vie politique, sociale, culturelle, pédagogique, universitaire, médicale. Chaque communauté a ses hôpitaux aussi. C'est ça qui permet de respecter les droits de l'homme et de respecter les libertés des différentes communautés. Et c'est là où on rejoint, c'est ma conclusion, c'est ce modèle qui constitue un exemple de respect des droits de l'homme dans une société hétérogène et pluraliste. Encore une fois, un modèle dans une société hétérogène et pluraliste. Encore un mot, ce modèle-là est menacé actuellement par deux facteurs. D'abord, les organisations islamiques extrémistes comme la Qaïda, etc., pour des raisons évidentes. Ce n'est pas aux États-Unis que je vais expliquer les dangers de la Qaïda. Deuxièmement, par le Hezbollah. Pourquoi le Hezbollah? Parce que le Hezbollah, c'est un parti extrémiste chiite dont l'allégeance sur le plan politique n'est pas une allégeance libanaise, c'est-à-dire pour les grandes décisions politiques, et surtout la décision de guerre et de paix. Et c'est écrit dans la littérature politique du Hezbollah. Dans ces grandes décisions, ils s'en réfèrent au guide suprême de la révolution iranienne. C'est-à-dire, c'est lui qui décide si le Hezbollah doit aller se battre en Syrie ou non, et non pas le Hezbollah. Et c'est lui, le guide suprême de la révolution iranienne, qui décide si le Hezbollah doit se retirer de Syrie ou non. Donc, face à une situation actuelle, ça déstabilise le modèle libanais, ça déséquilibre tout le modèle libanais, et ça empêche la construction d'un État central qui peut défendre justement les libertés et les droits de l'homme de toutes ces communautés. Donc, ce sont ces deux dangers qui menacent le modèle libanais, et qui menacent aussi l'Occident, d'ailleurs. Hein, qui constitue aussi une menace pour l'Occident et pour les valeurs de l'Occident que nous partageons aussi avec l'Occident. Merci.
Merci, messieurs. Nous avons à peu près, nous avons seulement quelques minutes pour poser des questions. J'aimerais que vous attendiez le micro afin de et présentez-vous votre nom et votre pays. Première question, s'il vous plaît.
À Monsieur Abdullah, vous avez mentionné la section 4.4. Concernant sur la nouvelle constitution de 2012 sur la liberté religieuse qui peut-être serait définie par la loi. Dans mon expérience, ce serait une opportunité pour l'État de réguler la religion parce que la religion est alors régulée par une loi et l'aspect constitutionnel devrait avoir une liberté complète sans régulation. Est-ce que vous voulez élaborer un peu plus là-dessus?
L'article dit que si vous n'êtes pas chrétien ou juif, que si vous voulez établir un lieu pour prier, que vous pouvez recevoir ce droit et vous pouvez recevoir une licence pour faire ceci afin de régulariser le droit des religions. Afin de recevoir. Vous avez besoin donc d'une licence afin de pouvoir prêcher et de pratiquer une religion.
Je m'appelle David Rodermel des États-Unis. À Monsieur Touma, ici, vous avez mentionné le rôle institutionnel de la communauté chrétienne au Liban. Est-ce qu'il y a une institution similaire pour les juifs, les communautés juives? Alors, il y a un modèle universel qui peut être utilisé dans les pays de l'Est. Désolé, nous avons raté une partie de la question ici.
Okay, so
je pense que dans des pays comme la Syrie, ça peut être une solution. Au Liban, nous avons des traditions anciennes. Je ne peux pas l'expliquer car nous n'avons pas assez de temps. Mais nous avons des traditions anciennes de communautarisme. Le système libanais est fondé sur le communautarisme. Ce modèle peut être mis en place. En Syrie, ça peut être mis en place aussi. S'il y a la volonté en Israël, c'est une autre histoire. Je ne pense pas que cela peut être mis en place, parce que si vous voulez mettre cela en place en Israël, vous devez être un État entre les Palestiniens et les Juifs, et je crois que c'est impossible. Mais dans une société plurielle, ceci peut être mis en place s'il y a une tradition. Alors, pour répondre à la question, je pense que c'est possible. Je pense que les chrétiens de Syrie les chrétiens en Syrie n'ont aucun rôle. Il y a peut-être un seul ministre dans le gouvernement. Il pourrait avoir un rôle plus important en Syrie pour établir plus de respect et d'égalité. Ce serait possible en Syrie.
Lynn Norrie de l'Iran. Alors, vous avez mentionné qu'il y a cette islamophobie. Et je suis d'accord avec la plupart des déclarations que vous avez émis à ce sujet. Ma question est la suivante. Quel type de gouvernement pour les pays principalement musulmans, quel type de gouvernement est-ce que ça prendrait pour changer ce type de stéréotype, cette impression que les pays non musulmans ou les citoyens non musulmans ont au sujet des musulmans. Quel type de gouvernement est-ce que cela prendrait? Ils pourraient aller dans différents symposiums, de différentes conférences. Si on est dans ces réunions, ces conventions, nous pouvons donc exprimer notre point de vue. Nous devons prendre des décisions, mais au travers de ces conférences et de ces réunions auxquelles nous participons, nous pourrons enseigner les gens au sujet de l'islam. Et concernant le fait que l'islam a beaucoup de bien et de tolérance vis-à-vis des autres religions. Et si les gens ont une phobie contre l'islam, ceci peut être résolu. Et sinon, on va avoir les mêmes problèmes par la suite.
Je vais répondre en français. Il y a deux choses. C'est que d'abord, il ne s'agit pas dans les pays encore où il y a chrétiens et musulmans qui cohabitent. Il ne s'agit pas de tolérer la présence d'un chrétien, c'est-à-dire de le laisser vivre. Il faut de lui donner les moyens de jouer tout le rôle qu'il peut jouer à tous les points de vue, et non pas de mettre des barrières, de dire il ne peut pas être président, ou il ne peut pas être ministre, etc., ou il ne peut pas avoir d'école, ou il ne peut pas avoir d'église. Parce que dans certains pays, on ne peut même pas construire des églises, comme en Arabie Saoudite. Donc, il ne s'agit pas seulement de tolérer l'autre et de ne pas l'accepter. Il s'agit de l'accepter dans sa différence et de lui permettre de jouer le rôle à tous les points de vue et d'une façon totale et sans condition et sans contrainte. Ça, c'est un. Deux, ce que les musulmans peuvent faire, les États musulmans peuvent faire, c'est d'abord, d'une façon très claire, dans leur comportement, de donner comme exemple l'antithèse d'organisations comme la Qaïda, etc. Il y a une révolution culturelle qui doit être faite dans certains milieux musulmans pour, une fois pour toutes, briser, comme vous avez dit, cette idée-là. Parce que les gens font l'amalgame entre la Qaïda et les musulmans. C'est aux musulmans de briser cet amalgame. C'est aux musulmans qu'il y ait un courant de pensée qui montrent dans le courant de pensée, dans leur comportement, hein, que la Qaïda, c'est un phénomène qui est rejeté même par l'islam. Au Liban, par exemple, on a eu des organisations fondamentalistes sunnites qui ont été rejetées par les musulmans sunnites avant les chrétiens, d'une façon très nette et très claire et très sans aucune ambiguïté. C'est ce genre d'attitude qui permet d'éviter cet amalgame que vous avez.
Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, remercions nos orateurs. Et merci pour votre participation et à demain. Merci.